Voici une question dont la réponse en fera réfléchir plusieurs. Est-ce que Dieu exauce nos prières parce que nous le méritons? La parole de Dieu va nous donner une réponse bien claire aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Je crois qu'on va de nouveau apprendre de belles choses au sujet de Dieu aujourd'hui, suite aux questions qu'on va poser à sa parole. Voici les questions. Pouvons-nous voir des aspects du salut dans l'Ancien Testament? Qu'est-ce que la Bible veut dire quand elle appelle Dieu un rocher? Méritons-nous les choses que nous demandons à Dieu par la prière? Pouvons-nous accomplir quelque chose pour Dieu par nos propres efforts? Pouvons-nous détourner les gens de Dieu si nous avons un mauvais comportement? Nos vies doivent-elles honorer Dieu en tout temps? Quelles sont les conséquences de notre manque de confiance en Dieu? Restez avec nous. Le pasteur et Jean Joly va nous apporter un très bon enseignement en réponse à toutes nos questions. De nouveau, on va trouver la réponse à toutes ces questions dans les Saintes Écritures. Mais premièrement, prions. Oui, Seigneur, tu as la réponse à toutes nos questions. Elles sont toutes là dans ta parole et tu nous as donné ton Esprit Saint pour pouvoir les comprendre. Enseigne-nous aujourd'hui. Fais-nous comprendre des choses profondes qu'on n'a jamais comprises avant. On compte sur toi, Seigneur. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu Anne prier pour un garçon et lorsque l'Éternel lui accorda sa requête, elle lui consacra son fils. Anne a répandu son cœur devant l'Éternel, et c'est avec une assurance calme qu'elle fut exaucée, qu'elle est sortie du temple après qu'Élie l'eut prise pour une femme en état d'ébriété. Anne vint à Dieu avec son besoin, et il lui accorda un fils qui sera un instrument pour établir la royauté en Israël, en plus d'être le dernier juge. Anne exprime sa reconnaissance au Seigneur avec une prière prophétique où le Messie est mentionné pour la première fois. Examinons une des prières des plus merveilleuses que nous trouvons dans la Bible. Chers amis, débutons notre lecture. 1 Samuel chapitre 2, verset 1. Anne pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. » « Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. » Anne se réjouit dans l'Éternel, sa force. Elle se réjouit de la victoire qu'il lui a accordée sur ses ennemis, qui se moquaient d'elle, car elle était stérile. Elle se réjouit de son salut et la liberté que celui-ci lui accorde. Trois aspects de salut. Il y a trois aspects au salut qui se rapportent au passé, au présent et au futur, respectivement. Premièrement, le croyant a été sauvé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean, chapitre 5, verset 24. Ceci signifie que le Seigneur Jésus a libéré le croyant de sa culpabilité par sa mort à la croix. C'est ce qu'on appelle la justification, et c'est un fait accompli pour le croyant. Deuxièmement, Dieu purifie le croyant de ses péchés. Il le fait présentement. Ainsi, le croyant est en voie d'être sauvé. C'est une transformation graduelle à l'image du Seigneur Jésus. C'est ce qu'on appelle la sanctification. C'est cet aspect du salut dont Anne fait l'expérience. Et troisièmement, finalement, le croyant sera sauvé de la mort spirituelle. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean chapitre 3, verset 2. cette transformation se produira dans l'avenir. Nous l'appelons la glorification. Donc, le croyant a été sauvé, justification, il est en train d'être sauvé, sanctification, et il sera sauvé, glorification. Anne se réjouissait de son salut. Le prophète Jonas a dit, « Le salut vient de l'Éternel. » Jonas, chapitre 2, verset 10. Cette affirmation est reprise plusieurs fois dans le livre des Psaumes. Le salut nous est donné par la grâce, uniquement par la grâce de Dieu. Nous sommes justifiés gratuitement par la grâce de Dieu. C'est un don de Dieu. Un don gratuit. La Bible insiste. Il n'y a rien en nous qui nous permet de mériter le salut de Dieu. Dieu nous sauve parce qu'il nous aime. Le pécheur est sauvé uniquement par le moyen de la foi, placé dans le don gratuit de Dieu, dans sa grâce. Verset 2. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Notre Dieu est un rocher, chers amis. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel est appelé un rocher. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus est appelé la pierre angulaire. 1 Pierre, chapitre 2, verset 6. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 18, Jésus a dit en parlant de lui-même, « Sur ce roc, je bâtirai mon Église. » Matthieu, chapitre 16, verset 18. Le rocher sur lequel Anne s'est appuyée est le même sur lequel nous nous appuyons aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre rocher que notre Dieu. Verset 3. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. Nous recevons tout par grâce et uniquement par grâce. Lorsque nous nous approchons de Dieu dans la prière, nous devons être prudents, mes amis. Que notre orgueil ne nous fasse pas trébucher. Soyons conscients, chers amis, du fait que nous ne pouvons pas rien réclamer de Dieu en nous appuyant sur nos mérites. Souvent, des gens disent, « Pourquoi Dieu n'a-t-il pas répondu à ma prière ?» Dieu ne nous doit rien. Par contre, si nous avons reçu le Seigneur Jésus comme Sauveur, nous pouvons nous approcher de Dieu en son nom. Dieu entend nos prières si elles sont conformes à sa volonté. Versets 4 à 6. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante sept fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Dieu donne la vie. Il est la source de vie. Le Seigneur a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Job, chapitre 1, verset 21. Seul Dieu peut donner la vie, et seul Dieu a le droit de la reprendre. Dieu a exercé son droit de reprendre la vie dans le cas d'Ananias et de Saphira, le couple qui a menti au Saint-Esprit dans Actes, chapitre 5. Il ne s'excuse pas du fait qu'il a l'intention de juger les méchants. Ils mourront, et ils seront séparés de Dieu pour l'éternité. Dieu ne s'excuse pas pour ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que l'univers lui appartient et nous sommes ses créatures. Il dirige l'univers selon son gré. C'est merveilleux que nous puissions nous prosterner devant ce Dieu et être bénis par lui si nous sommes disposés à marcher dans ses voies et selon ses principes. Versets 7 à 9. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donna en partage un trône de gloire. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Mais les méchants seront réduits au silence. car l'homme ne triomphera point par la force. Chers amis, nous ne pouvons rien de nous-mêmes. Les humains, par leurs propres efforts, leur puissance et leur force, ne pourront jamais rien accomplir pour Dieu. Les chrétiens ont besoin de se rendre compte de cette vérité. Ce qui sera récompensé et accepté par Dieu, c'est seulement ce que nous faisons par la puissance du Saint-Esprit. Nous devons apprendre à dépendre de l'Esprit de Dieu et à nous reposer sur lui. Verset 10. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son oint. C'est le premier verset de la Bible à utiliser le mot oint, qui est le mot Messie en hébreu. En grec, le mot Messie traduit Christos. C'est de là que vient le nom Christ. Ce mot est en fait un titre de Jésus, mais pas véritablement un nom. Dieu se prépare à transformer la nation d'Israël en un royaume, en établissant un roi. Il en est ainsi car le peuple rejette la théocratie. Versets 11 et 12. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama, et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. Samuel n'était pas dans un environnement sécuritaire, même s'il faisait le service du tabernacle. Ce jeune garçon a besoin des prières de sa mère et de la main bienveillante de Dieu. Versets 13 à 17. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à trois dents. Et il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Le serviteur répondait, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Détournons-nous des personnes de Dieu? Les fils d'Élie n'étaient pas honnêtes. Leur conduite a détourné des personnes de Dieu. Mes amis, soyons prudents avec le péché dans nos vies et dans nos assemblées. Nous pouvons éloigner les gens de Dieu. Versets 18 à 21. Samuel faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe, et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant, « Que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme, pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. » Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte, et elle enfanta trois fils et deux filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Dieu fut bon avec Anne. Il lui accorda cinq autres enfants, mais elle n'oublia pas Samuel qui grandit devant l'Éternel malgré son environnement. Versets 22 et 23. Il y était fort âgé, et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. » La conduite des fils d'Élie était scandaleuse, mais malheureusement, Élie était indulgent envers ses fils. Il ne leur a donné qu'une petite tape sur le poignet. Verset 24. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Le peuple suivait l'exemple des deux prêtres. Élie n'a pas pris aucune mesure pour corriger la situation. Il était vraiment trop indulgent. Versets 25 à 29. Si un homme pèche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pèche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continue à grandir, et il est agréable à l'Éternel et aux hommes. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? » Élie n'a pas honoré Dieu comme il aurait dû, et Dieu va lui ôter son ministère. Maintenant, Dieu établira un prêtre prophète pour remplacer Élie et ses fils. Ce sera ce jeune homme du nom de Samuel. Verset 30. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Nos vies doivent honorer Dieu. Assurons-nous que nos vies honorent Dieu. Nous lisons dans le psaume 107, versets 1 et 2. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Les rachetés de l'Éternel doivent parler et glorifier Dieu. Oui, chers amis, le racheté doit témoigner et apporter la bonne nouvelle à ceux de son entourage. Versets 31 à 34. Voici, le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel. Et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Au fur et à mesure que nous progresserons dans notre étude de l'Ancien Testament, nous verrons que toutes ces prophéties se sont accomplies. Il y a toujours des conséquences à déshonorer Dieu. Soyons prudents avec nos enfants et ne soyons pas trop indulgents. Si nous ne jugeons pas nous-mêmes et ne nous détournons pas du péché, c'est Dieu qui le fera. Disciplinons et enseignons nos enfants dans les voies de Dieu. Nous devons nous repentir de notre péché et réclamer par la foi la victoire que le Seigneur Jésus nous a acquise par sa mort à la croix. Versets 35 et 36. Je m'établirai un sacrificateur qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable, et il marchera toujours devant mon oint. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain, et dira, « Attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce, afin que j'aie un morceau de pain à manger. » Qui sera ce sacrificateur fidèle? ce sera Jésus-Christ. Christ signifie « oint ». C'est le mot grec pour « Messie ». Le Seigneur Jésus a toujours agi conformément à la volonté de son Père. Au verset 10 de la prière d'Anne, l'oint est présenté comme un roi. Le Messie qui viendra sera un roi. Moïse en a parlé comme un prophète, et dans 1 Samuel, il est présenté comme un prêtre. Le Seigneur Jésus-Christ a exercé les fonctions de roi, de prophète et de sacrificateur. Il est le seul à l'avoir fait. Oui, chers amis, Jésus-Christ est le prophète, le sacrificateur et le roi. Maintenant, nous allons aborder le 3e chapitre. Ce chapitre nous raconte l'appel de Samuel. C'est le début d'un changement majeur dans le style de gouvernement de la nation d'Israël. La période des juges se termine et le Seigneur ne gouvernera plus par les prêtres. Maintenant, Dieu suscite un prêtre-prophète. Samuel va oindre 2 rois, Saül et David. Dieu ne s'adressera jamais directement à un roi. Il leur parlera toujours par la bouche d'un de ses prophètes. Débutons la lecture d'1 Samuel chapitre 3, verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Selon l'historien Joseph Flavius, Samuel devait maintenant avoir environ 12 ans. C'est donc un jeune homme qui était au service de l'Éternel. Un jeune enfant de 4 ans ne servira pas dans le tabernacle. Alors c'est un jeune homme d'environ 12 ans. Nous avons tout un contraste entre Anne et Élie. Anne, une femme qui craignait Dieu, lui a demandé un fils qu'elle a consacré à l'Éternel son Dieu. Celui-ci en fera le premier prêtre prophète. Par contre, Élie, le grand prêtre, a honoré ses fils plus que Dieu. Dieu lui suscitera un remplaçant et fera mourir ses 2 fils le même jour. Dieu nous demande de lui faire confiance. Si nous refusons, nous devons être prêts à en accepter les conséquences. Oui, chers amis, il y aura toujours des conséquences suite à nos gestes. Soit que nous obéissions à la volonté de Dieu, et par le feu même, nous recevrons sa bénédiction, ou si nous désobéissons à sa volonté, nous en recevrons aussi les conséquences, soit la malédiction. Aujourd'hui, Dieu place devant nous la bénédiction et la malédiction. À nous de choisir. Qu'allez-vous en faire de ce choix qui est devant vous présentement, chers amis? Et ce choix, nous le retrouvons en toutes lettres dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 36. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » La condition pour recevoir la bénédiction ou les bienfaits de Dieu, c'est de croire ou de recevoir le Fils, le don de Dieu, le Fils Jésus, le Christ, l'oint, le Messie, celui que Dieu s'est choisi. Il nous invite maintenant à le recevoir, et si nous le refusons, il ne reste que la malédiction, chers amis. Je vous encourage à faire le choix, le bon choix. Chers amis, prochaine émission, 1 Samuel, chapitre 3, verset 1er, à chapitre 5, verset 12.
Merci, Régent. Pour certains, c'était peut-être décevant d'apprendre aujourd'hui qu'on ne mérite rien de ce que Dieu nous accorde en réponse à nos prières. Mais pour d'autres, c'était sûrement réconfortant de l'entendre. Je m'explique. Si une personne croit qu'elle mérite d'aller au ciel après la mort, c'est certain qu'elle n'y ira pas. Puisque la parole de Dieu nous enseigne que c'est grâce au mérite de Jésus seul qu'on peut recevoir le don gratuit de la vie éternelle. Alors, tant qu'on pense qu'on peut gagner notre ciel, on passe à côté de la grâce de Dieu qui, lui, veut nous donner la vie éternelle en cadeau. Je pense que la personne qui pense qu'elle mérite d'aller au ciel est la même qui pense qu'elle mérite les choses qu'elle demande à Dieu. Mais si une personne a reçu le don gratuit de la vie éternelle, en mettant toute sa confiance en Jésus seul, reconnaissant qu'on est tous des pécheurs qui ont besoin du pardon de Dieu, ce pardon qu'il nous accorde quand on se repent et qu'on reçoit Jésus comme Sauveur et Seigneur, eh bien, cette personne croit aussi que tout ce que Dieu lui accorde par la prière est un cadeau immérité que Dieu lui donne simplement parce qu'il l'aime inconditionnellement. C'est tellement merveilleux de réaliser que Dieu nous aime à ce point-là. Lui qui est parfait en sainteté, en pureté, en amour, en puissance, il a décidé de donner son Fils unique afin que par la foi en lui, des pécheurs comme nous puissions recevoir le don gratuit de la vie éternelle. Et en plus, pendant le temps où nous vivons sur cette terre, il nous dit « Demandez et vous recevrez ». Il aime qu'on lui fasse part de tous nos besoins, comme des petits-enfants qui demandent à leur papa de leur donner quelque chose, confiant qu'il les aime trop pour leur dire non, à moins que la chose ne soit pas pour leur bien. L'apôtre Paul savait ça quand il a écrit son épître aux Philippiens, au chapitre 4, aux versets 6 et 7. Il a dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Mon ami, reconnais-tu que tu as besoin de Dieu? Que tu as besoin du sacrifice de Jésus à la croix pour pouvoir t'approcher de Dieu? Dieu veut te donner tout ce dont tu as besoin sur cette terre. Tu n'as qu'à le lui demander sans douter. Mais ce qui est encore meilleur, c'est qu'il veut te donner la vie éternelle. C'est pourquoi il a envoyé son Fils Jésus qui a souffert, qui est mort sur une croix pour payer la dette de tes péchés. Et en ce moment même, il t'offre cette vie éternelle. Repens-toi et crois à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas à subir de châtiment éternel, celui qu'on mérite tous, puisqu'on est tous pécheurs. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur t'appelle en ce moment. Demande à Jésus de te sauver. C'est certain qu'il va le faire. Tu pourrais naître de nouveau, naître dans la grande famille de Dieu. Tu vas devenir un enfant de Dieu. Et Dieu va être ton Père. Il va te donner tout ce qui est bon pour toi sur cette terre, jusqu'au jour où il va venir te chercher pour t'amener avec lui dans son beau ciel pour l'éternité. Tu veux pas passer l'éternité avec Dieu? Être certain que le jour où tu vas mourir, tu vas aller tout droit au ciel, que tu seras jamais privé de sa présence. Reçois Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur, et tu seras dans sa présence éternellement.
Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions? Vous aimeriez en recevoir les réponses?
On veut recevoir vos appels. Ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions.
Nous avons une équipe toute prête à les recevoir.
Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures.
Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés.
Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain.
Oui, toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le. Rejoins ces gens qui sauront t'aider.
T'as besoin d'amour? Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qui va te communiquer cet amour. Appelle. Appelle maintenant.
Voici nos coordonnées. Par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel.
www.radioespoir.ca. Et à l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Bonne fin de semaine et à lundi.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.